Les nouveaux chemins arpentent tous les jours la profondeur de l'intime, en compagnie de Jules Salomon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Jean Danielou, à la lecture détachée des textes cette semaine Georges Kless, à la réalisation d'âme accouchant de Dieu, Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son, Florent Hanoun. À 10h50, comme tous les jours, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Charlotte Morel pour son livre « Esthétique et logique » paru aux presses universitaires du Septentrion. Après Chrétien de Troyes et Dante, pour le troisième temps de notre semaine autour de la pensée médiévale, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Laurent Lavaux pour évoquer les textes du grand maître Eckhart, pour qui Dieu est un être qui habite toujours au plus intime de nous et les créatures, un pur néant.
Sache que tant que tu cherches encore en quoi que ce soit ton bien propre, tu ne trouveras jamais Dieu, parce qu'alors tu ne cherches pas simplement Dieu, tu cherches quelque chose avec Dieu. Et c'est exactement comme si tu faisais de Dieu une chandelle et que tu t'en servais pour chercher autre chose. Quand on a trouvé la chose qu'on cherchait, on jette la chandelle. Tu agis de même. Ce que tu cherches avec Dieu, c'est néant. Quoi que ce puisse être, utilité, récompense, intériorité ou quoi que ce soit d'autre, tu cherches un néant. C'est pourquoi aussi tu ne trouves que néant. Si tu trouves néant, l'unique raison en est que tu cherches un néant. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses ou quelque chose, elles sont un pur néant. Ce qui n'a pas d'être est néant. Mais aucune créature n'a d'être, car leur être à toutes est suspendu à la présence de Dieu. Si Dieu se détournait d'elles, ne fût-ce qu'un instant, elles retourneraient au néant. J'ai dit parfois, et c'est vrai, celui qui prendrait le monde entier avec Dieu n'aurait rien de plus que s'il avait Dieu seul. Car sans Dieu, toutes les créatures prises ensemble n'ont pas plus d'être qu'en aurait sans Dieu une mouche. Elles en ont exactement autant, ni plus ni moins.
Bonjour Laurent Lavaux.
Bonjour.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes maître de conférence de philosophie à Paris 1. C'est donc avec vous que nous allons parler de Maître Eckhart. Maître Eckhart qui était un philosophe médiéval donc, peu lu, qui a pourtant connu une postérité au sein de certains textes de philosophes contemporains. On en dira quelques mots plus tard. Mais il est vrai que de Maître Eckhart, on connaît très peu de choses. Le texte que nous avons donné à entendre pour ouvrir cette émission était le sermon numéro 4 de Maître Eckhart, où on peut trouver des traités et sermons de Maître Eckhart, puisqu'il écrit beaucoup de textes qui renvoient les uns aux autres. Et on a entendu ce verbe étonnant, comme une litanie qui répète sans cesse la même chose. En l'occurrence, ce qu'il répète, c'est que les créatures sont un néant. C'est pas qu'elles ne sont peu de choses ou une petite chose. Les créatures sont un néant. Et en ce sens, sans Dieu, toute créature serait égale à une mouche. Est-ce une façon pour Maître Eckhart de prouver l'existence de Dieu par la négative? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on serait là dans ce qu'on appelle la théologie négative?
Alors, la théologie négative est une dimension très importante, effectivement, dont s'inspire Maître Eckhart, notamment le grand fondateur dans le christianisme de la théologie négative est Denis l'Aréopagite, qui... quelques siècles avant, avait eu une influence immense sur la pensée, notamment chez Eckhart et chez Thomas d'Aquin. Mais le texte est radical. Eckhart a une manière toujours de parler, de penser, avec une sorte de fougue spéculative qui radicalise toujours ses thèses. Et comme vous le disiez, il dit « les choses ne sont pas peu de choses, elles sont néant ». Toujours aller jusqu'au bout de la pensée.
Mais un pur néant.
Néant.
Comme si le terme de néant n'était pas assez radical.
Voilà. Donc, mais comment l'interpréter? Parce que, en même temps, il ne faut pas commettre de contresens. C'est assez difficile à comprendre. Le monde n'est pas rien absolument. Alors, il faut distinguer deux choses. Le monde, tel qu'il est en lui-même et par lui-même, si je le vise, si je le considère dans sa consistance propre, il n'est rien. Ce à quoi invite ici Maître Eckhart, c'est une sorte de conversion du regard, de l'intention, c'est-à-dire comprendre et saisir les choses en Dieu. Les choses ont un être, mais si elles sont ressaisies dans leur origine divine. Et là encore, Eckhart va déployer des thèses tout à fait étonnantes. Hein. Il dit que d'une certaine façon, Dieu, c'est le cœur secret des choses. Hein. Dans le sermon 77, Dieu est l'intime des choses, mais ce qui n'apparaît pas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord remonter en Dieu et, du point de vue de Dieu, pouvoir saisir le monde dans sa consistance. Mais si on commence, en quelque sorte, par se tourner, se diriger vers le monde, eh bien, d'une certaine façon, le monde n'est rien. Il n'est quelque chose qu'en tant que signe de Dieu.
Mais est-ce que ça veut dire que l'homme peut remonter vers Dieu ? Est-ce que l'homme a accès au point de vue de Dieu, auquel cas il ne serait pas absolument transcendant ? Il y aurait comme un lien de continuité entre l'homme et Dieu.
Alors, non seulement l'homme a accès au point de vue de Dieu, mais là encore, Eckhart va toujours plus loin. C'est-à-dire, quand on lit Eckhart, on est toujours dépassé par sa pensée, en quelque sorte. Dire que l'homme a accès au point de vue de Dieu, ce serait encore, d'une certaine façon, tenter d'établir un lien de continuité, comme vous dites, un rapport entre l'homme et Dieu. Mais Eckhart va beaucoup plus loin. Il dit qu'à un certain point de nous-mêmes, de notre intériorité, il n'y a plus de différence entre moi et Dieu. D'une certaine façon, moi, c'est Dieu et Dieu, c'est moi. Alors ça, c'est évidemment une thèse très difficile qu'il faudra essayer de comprendre, mais on voit cette puissance de radicalisation. Je voudrais aussi juste peut-être faire une remarque sur ce que vous avez dit en commençant, sur l'idée du sermon. Ça, c'est quelque chose de très essentiel aussi chez Maître Eckhart. Il invente une manière de s'adresser aux gens simples, d'une certaine façon. C'est un immense savant, Eckhart. Hein. C'est quelqu'un qui a enseigné à l'Université de Paris, qui a occupé la chaire de saint Thomas d'Aquin, disputait avec les plus grands théologiens de son temps. Mais en même temps, la fine pointe de sa pratique, c'est le sermon. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il enseigne plus seulement en latin, ou qu'il ne fait plus seulement des sermons latins, mais aussi en allemand. Et donc, il y a cette volonté, et comme on le voit dans le style des sermons très vivants, avec ces expressions, l'expression de la mouche, par exemple, le monde n'est qu'une mouche, hein, de frapper l'auditoire. Il y a une rhétorique du sermon et une manière, il invente une langue et une manière de chercher à convertir son auditoire, ce qui peut-être aussi va lui occasionner un certain nombre de problèmes.
Donc le but est de convertir, mais le but est également de faire réfléchir à partir de ce qu'est l'homme par rapport à Dieu. On est là, on parlera de Thomas d'Aquin demain, on est là exactement dans ce qui peut poser problème entre d'un côté la théologie, de l'autre la philosophie, quand les deux se rejoignent avec même la religion et la foi comme lien entre les deux. Le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des savants, comme le Dieu des savants n'est pas le Dieu chrétien. Et c'est bien que l'entreprise de Maître Eckhart est symbolique, vraiment de cette symbolise cette entreprise proprement, je crois, médiévale, hein, d'essayer de parler de Dieu tout en préservant le Dieu de la religion duquel on ne peut pas dire grand-chose.
Alors effectivement, qu'est-ce qui se joue au Moyen-Âge et en particulier dans cette période-là, c'est cet extraordinaire effort pour pouvoir avoir dans la main gauche les grands philosophes, la tradition philosophique, et dans la main droite, la Bible et l'Évangile, d'une certaine façon. Et d'essayer de traduire un langage dans un autre. C'est une immense entreprise de traduction. Alors, par exemple, chez Thomas d'Aquin ou Maître Eckhart, c'est traduire le donné, ce qu'on peut appeler de la révélation évangélique, à travers des concepts philosophiques qui sont en particulier ceux d'Aristote, mais aussi à travers la tradition platonicienne et néoplatonicienne. Eckhart est très profondément marqué, dépendant de cette tradition néoplatonicienne, et notamment par le canal de Denis l'Aréopagite, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Cette affirmation que vous avez reprise de Maître Eckhart, « Dieu c'est moi et moi c'est Dieu », comment la comprend-on, puisqu'elle semble être en tout point opposée au texte que nous avons donné à entendre en ouverture d'émission, en disant que l'homme sans Dieu, les créatures sans Dieu sont pur néant. Or dire que moi c'est Dieu et Dieu c'est moi, c'est montrer qu'il y a comme une auto-fondation mutuelle entre moi et Dieu.
Alors effectivement, mais pour Eckhart, ce n'est pas contradictoire. Il y a une démarche fondamentale de l'homme qui doit accomplir. En fait, si on veut rentrer dans la pensée Descartes, il faut considérer une sorte de jeu à trois bandes, de système à trois coordonnées. Le monde, le moi, l'intériorité, et Dieu. Et donc, on retrouve ces trois grandes idées qui sont reprises même plus tard, les trois grandes idées, d'une certaine façon, de la métaphysique. Que doit opérer l'homme ? Il doit, justement, opérer une sorte d'évidement intérieur. Il doit se vider de son rapport au monde. Et donc, il doit, d'une certaine façon, devenir néant au monde. C'est cette fameuse thématique très importante chez Eckhart du détachement. C'est-à-dire tenter de ne plus se laisser absorber par les choses, mais remonter par une sorte d'odyssée intérieure, remonter à ce point où je suis l'édique, comme il dit, c'est-à-dire vide de mon rapport au monde. Je remonte en moi-même comme je remonterai dans ma propre origine en Dieu. Mais cette idée du néant, elle rebondit, et c'est là où c'est assez complexe, parce que, par certains côtés, Dieu lui-même est néant. Dieu lui-même n'est rien. C'est là où on rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure sur la théologie négative. Comment le comprendre ? En fait, il y a deux dimensions de l'être divin. Une dimension par laquelle Dieu est Dieu, d'une certaine façon, au sens le plus classique du terme dans la théologie. C'est-à-dire deux fonctions principales, ou deux dimensions principales. Une fonction créatrice, par laquelle il est rapport à l'homme, et une dimension trinitaire, par laquelle il est rapport à lui-même, c'est-à-dire le Père, par la médiation du Saint-Esprit, rapport au Fils. Mais, et c'est là une des originalités Descartes, à l'intérieur même de Dieu, il y a une sorte de transcendance sur lui-même, ou de supériorité à soi, qui fait qu'il faut distinguer le concept courant de Dieu et ce qu'il appelle la déité, terme très difficile, qui est une sorte de désert intérieur, d'origine intérieure à Dieu lui-même. Et donc, le point du rapport entre l'homme et Dieu, c'est d'essayer de trouver à la fois dans l'âme un point où l'homme remonte à sa propre origine, ce que Eckhart appelle le fond de l'âme, qui coïncide avec le point où Dieu remonte en lui-même, se transcende lui-même dans la déité.
Ce qui veut dire que l'homme et Dieu ont une origine commune qui est la déité.
Absolument.
On est là dans un système plotinien quasiment, où c'est l'un qui est à l'origine même, qui déborde l'être lui-même et qui vient innerver l'intelligence, puis les corps. Le parallèle tient entre Plotin et Maître Eckhart.
Alors c'est aussi peut-être ce qui lui a posé problème, et ce qui a posé problème à l'Église d'une certaine façon. Le parallèle tient absolument au point que Plotin parle de cette déité, de ce désert intérieur à Dieu, où il n'est pas encore...
Maître Eckhart, pas Plotin.
Oui, excusez-moi, oui. Maître Eckhart, ça c'est une habitude ancienne. Maître Eckhart dit que le Dieu remonte dans cette sorte d'origine intérieure et cette déité qu'il appelle l'unique un, einig ein. Donc on retrouve cette idée d'unité, au point qu'on a parlé d'énologie, c'est-à-dire de pensée centrée sur la question de l'un, pour Plotin comme pour Eckhart, d'une certaine façon. Évidemment, il ne faut pas non plus en faire simplement un penseur néoplatonicien. Il est inspiré du néoplatonisme, mais les dogmes fondamentaux de la pensée chrétienne restent extrêmement vivants dans sa pensée, à savoir la théorie de la Trinité. Il y a toute une méditation sur le rapport interne de Dieu à lui-même, et notamment la théorie de l'incarnation, qui est le cœur aussi de la pensée Descartes, la théorie de l'incarnation, qui est le mouvement par lequel Dieu se fait homme. Alors ça, il se fait homme dans l'histoire, mais il interprète cela aussi d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il se fait aussi homme en chacun de nous, ou plutôt il naît en chacun de nous. Et donc l'incarnation dans l'histoire est la préfiguration de l'événement spirituel, de la naissance de Dieu en nous. Et cette idée de la naissance de Dieu en nous, elle n'est plus vraiment néoplatonicienne parce qu'elle se fonde sur l'incarnation et donc elle est proprement chrétienne.
C'est ça, c'est comme s'il ajoutait à Plotin la dimension du Dieu chrétien. Parce que l'incarnation, on pourrait presque la lire chez Plotin également, le fait que l'immatériel se matérialise. Il y a cette idée d'une incarnation, sauf que ce n'est pas d'un seul homme ni d'un seul Dieu. Le terme de Dieu vient plus tard, en effet, puisque c'est avec le christianisme que Dieu s'incarne, que du coup, même la pensée philosophique va prendre en compte à la fois cette transcendance et cette incarnation. Mais ce que propose Maître Eckhart, en tout cas d'après ce que vous dites, c'est cela. C'est une pensée qui serait plotinienne, en tout cas néoplatonicienne, à laquelle viendrait s'ajouter ajouter le christianisme? Ou est-ce que c'est trop réducteur de les présenter comme ça?
On pourrait peut-être inverser la proposition. C'est-à-dire que quand même son inspiration première, originelle, reste le christianisme. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur l'incarnation, parce que là, peut-être, ça permet de comprendre comment les deux univers, malgré tout, s'organisent. Il faudrait distinguer entre l'idée de création et d'incarnation d'un côté et l'idée d'émanation, donc création-incarnation dans le christianisme et émanation dans le néoplatonisme. La grande différence, c'est que dans l'émanation, l'un reste en lui-même. Il reste absolu, préservé, et l'émanation, c'est une sorte de puissance qui jaillit comme une source et qui constitue une réalité, comme des vases qui dans une fontaine qui se rempliraient les uns à la suite des autres. L'idée d'incarnation est d'une certaine façon plus radicale parce que c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui se fait homme. Et l'idée donc que Dieu puisse par lui-même assumer l'humanité, cela serait un scandale absolu pour un penseur grec néoplatonicien, et Plotin s'y serait radicalement opposé.
Le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile face à toute vicissitude d'amour et de souffrance, d'honneur, de honte et d'outrage, qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. Ce détachement immobile amène l'homme à la plus grande égalité avec Dieu. Car que Dieu soit Dieu, il le tient de son détachement immobile, et c'est du détachement qu'il tient sa limpidité et sa simplicité et son immutabilité. Et c'est pourquoi, si l'homme doit devenir égal à Dieu, pour autant qu'une créature puisse avoir égalité avec Dieu, il faut que cela se fasse par détachement. C'est lui qui mène alors l'homme à limpidité, et de la limpidité à simplicité, et de la simplicité à immutabilité. Et ce sont ces choses qui amènent une égalité entre Dieu et l'homme. Et il mue que cette égalité advienne par grâce, car la grâce tire l'homme de toute chose temporelle et le purifie de toute chose éphémère. Et tu dois savoir, être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu. Et être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. Laurent Lavaux, le traité du détachement est un texte aussi magnifique que paradoxal. Et la lecture que je viens d'en faire, l'extrait que je viens de lire, le donne bien à entendre, puisque d'un côté, l'affirmation que nous avons commentée de l'égalité entre l'homme et Dieu, et de l'autre, le fait que cette dialectique, il y a un paradoxe entre l'égalité affirmée d'un côté et la dialectique de l'autre, dialectique puisque être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu, être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. D'un côté, ce sont les deux ensemble à égalité, et de l'autre, c'est l'un ou l'autre.
Alors effectivement, c'est tout à fait une forme de dialectique qui fait que d'ailleurs que les grands penseurs de l'idéalisme allemand, par certains côtés, se reconnaîtront dans Maître Eckhart. La question du détachement est une question centrale dans la pensée d'Eckhart. Elle est aussi une notion très riche parce qu'elle a une dimension pratique et spéculative. On retrouve ce fameux jeu à trois coordonnées dont je parlais tout à l'heure, ce rapport entre Dieu, le moi et le monde. Il y aurait une sorte de concurrence de Dieu et du monde. On pourrait presque dire de concurrence des phénoménalités, des apparaîtres. C'est-à-dire que si je suis, qu'est-ce que ça veut dire être plein du monde? Ça veut dire être en quelque sorte mobilisé, sollicité par le monde, affairé, c'est aussi toute une tradition philosophique, de l'affairement de l'homme, et notamment une tradition stoïcienne qui se perd dans le monde et qui est incapable de faire retour à Dieu.
Donc, le divertissement pascalien.
Ou le divertissement, absolument. Donc, il y a cette idée que si je me préoccupe du monde, je ne peux pas me préoccuper de Dieu. Et donc, il y a un choix radical, un choix existentiel. On ne peut pas s'occuper à la fois du monde et de Dieu, même si peut-être on verra un peu plus loin, que ça ne veut pas dire que le monde soit totalement perdu. Mais c'est une nouvelle manière de viser le monde. Et donc, il y a cette affirmation que de l'évidement, être vide du monde, pour que puisse s'opérer cette fameuse unité, identité, du moi le plus intime et de Dieu. Donc, Dieu ne peut m'apparaître. Dieu ne peut se manifester en moi de façon absolue, que si je fais ce travail intérieur du détachement. Mais peut-être juste une remarque encore sur cette idée de détachement. Dans d'autres textes, Eckhart dit que être détaché, ce n'est pas vivre véritablement hors du monde, comme une sorte d'ascète. Le détachement est plutôt une manière d'être capable de vivre dans le monde, tout en persévérant en Dieu, avoir sa racine en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'ascétisme radical qui fait qu'on se retirerait dans une retraite loin du monde, mais c'est une manière de vivre en Dieu par une sorte de sérénité radicale. Et il y a un terme aussi tout à fait décisif chez Eckhart, qui est le terme de Gelassenheit. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. Et laisser les choses être ce qu'elles sont, ce qui me donne cette sérénité, c'est justement non seulement la certitude de n'être jamais loin de Dieu, mais l'expérience même d'être tellement uni à lui que plus rien ne me distingue de lui.
Alors deux problèmes surgissent après ce que vous venez de dire, Laurent Laveau. D'un côté, comment concilier le détachement et la grâce, puisque le détachement semble être un travail sur soi qui nous permet de nous rendre disponibles à Dieu. Or, si Dieu arrive par la grâce, c'est ce que disait le texte que j'ai lu, alors il n'y a pas besoin d'y travailler, c'est Dieu qui choisit de nous élire ou non. Et deuxièmement, c'est ce qui rejoint d'ailleurs ce premier point, vous avez dit, il faut arriver à laisser les choses être. Mais cette sagesse qui consiste à accepter les choses, faire en sorte qu'elles soient ce qu'elles sont, s'oppose également au travail sur soi qu'implique le détachement.
Alors là, vous abordez un point fondamental de toute la théologie médiévale, qui est la question de la grâce et de la liberté. Effectivement, on ne peut pas dire que ce n'est pas une technique spirituelle qui fait que le détachement consisterait, comme ça peut être dans certaines sagesses orientales, à une sorte de travail volontaire sur soi-même qui permettrait d'une certaine façon absolument d'engendrer Dieu en soi ou d'opérer cette union à Dieu. Il y a la grâce, c'est-à-dire qu'il y a cette idée fondamentale chez Eckhart que la passivité est supérieure à l'activité. C'est pas la volonté en moi qui va produire un effet par une sorte de causalité mécanique, mais il y a une expression très belle de Maître Eckhart, la fine pointe de la vie spirituelle est de souffrir Dieu. C'est-à-dire ce rapport à cet événement d'un Dieu qui m'advient, et cette advenue de Dieu en moi, ou cette naissance de Dieu en moi, elle ne peut se faire que par grâce. Donc, il y a toujours cette ambivalence, cette double dimension. Certes, se détacher du monde, mais le détachement qui suppose une forme de travail, comme je l'ai dit, ce n'est pas lui qui engendre Dieu, mais c'est toujours Dieu qui est premier, et l'activité que je pourrais mener sur moi-même n'est que secondaire par rapport à ce bouleversement intérieur qui est la grâce, qui est la naissance de Dieu et qui est cette fameuse unité de l'homme et de Dieu.
Je lisais dernièrement cette pensée de Pascal. Les hommes ne font jamais de mal aussi complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font pour des raisons religieuses. Ici, c'est la confusion et la violence. Nous sommes dans une situation à risque, mais nous persistons dans la foi et la confiance en Dieu. C'est par la pauvreté, l'échec et la mort que nous allons vers lui. Des pluies abondantes et dévastatrices n'ont pas éteint la violence qui s'infiltre partout. Deux partis sont en présence, l'un veut garder le pouvoir, l'autre s'en emparer. Ils se battent dos au mur. J'ignore quand et comment ça finira. En attendant, j'accomplis ma tâche. Recevoir les pauvres et les malades, en attendant le jour ou l'heure de fermer les yeux, mon cher ami. Prie pour moi que ma sortie de ce monde se fasse dans la paix et la joie de Jésus.
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles étalaient en tableau la sainte vérité, dont l'effet réchauffant les pieuses entrailles tempérait la froideur de leur austérité. En ces temps où du Christ fleurissaient les semailles, plus d'un illustre moine aujourd'hui peu cité, prenant pour atelier le chant des funérailles, glorifiait la mort avec simplicité. Mon âme est un tombeau que mauvais cénobite. Depuis l'éternité, je parcours et j'habite. Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux.
Vous écoutez France Culture, il est 10h26, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons du Moyen-Âge, toute cette semaine de la pensée du Moyen-Âge et aujourd'hui de Maître Eckhart, le philosophe Maître Eckhart, en compagnie du philosophe Laurent Lavaux, maître de conférences en philosophie à Paris 1 et auteur notamment d'une métaphysique à l'autre, figure de l'altérité de la pensée de Plotin, dans la pensée de Plotin, paru aux éditions Vrin.
Chauffant les pieuses entrailles, tempérer la froideur de leur austérité. Mon âme est un tombeau que mauvais cénobite. Depuis l'éternité, je parcours et j'habite. Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Moine feignant, qu'en saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère, le travail de mes mains et l'amour de mes yeux. Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux.
Au paradoxe entre la grâce et la liberté, Laurent Lavaux, que nous avons évoqué juste avant et sur lequel il faudra revenir puisque c'est effectivement déterminant et dans tous les penseurs et les écrivains du Moyen-Âge, s'ajoute ce paradoxe que nous avons rapidement abordé, qui est cette fois entre Dieu et le monde. Vous l'avez dit, trois points d'entrée dans la pensée de Maître Eckhart, Dieu, l'âme et le monde. L'âme fait le lien entre Dieu et le monde et pourtant, n'y a-t-il pas un moment où elle doit choisir ? Est-ce que cette pensée du détachement, cette thématisation de la grâce ne sont pas un moyen pour Maître Eckhart, et dans la façon dont il prêche sa pensée, de se détourner du monde. L'extrait que nous avons entendu, on a entendu un extrait de film juste avant, c'était un extrait des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois qui date de 2010, et qui un film librement inspiré de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 1996. On y entendait ce personnage, interprété par Michael Lonsdale, écrire une lettre en disant voilà, « je ne peux pas prendre parti à cette guerre civile qui a lieu autour de moi, je ne peux que, en me recueillant dans ma pauvreté, qui est un thème que reprend et que creuse Maître Eckhart, le thème de la pauvreté, me contenter de venir en aide aux plus pauvres, mais ce qui se passe dans le monde, les événements, disons, politiques, il faut que je m'en détourne. Est-ce qu'on ne peut pas ici faire trouver, pointer une faiblesse de cette pensée telle que la met en œuvre Maître Eckhart, qui est de se détourner du monde, et donc en ne se tournant que vers Dieu, que vers son âme, en y trouvant Dieu au fond de son âme, on se détourne du monde, et du coup, que reste-t-il de la vie terrestre si elle est uniquement vouée à prier Dieu ?
Alors, question effectivement décisive, si on se réfère à l'extrait qui a été lu, je crois que le personnage de Michael Lonsdale est médecin. Il dit à un moment donné, en attendant, j'accomplis ma tâche. Donc, malgré tout, si on voit cette logique, il ne s'agit pas simplement, même pour ces moines, de fuir simplement le monde, mais il y a quand même un engagement, mais qui serait d'un autre ordre qu'un engagement simplement tranché entre deux camps. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'on peut observer la vie de Maître Eckhart. Parce que là, il y a encore un paradoxe. C'est un penseur du paradoxe, mais sa vie même est une sorte de grand paradoxe. Maître Eckhart, on vient de le dire, ne cesse de prêcher le détachement, grand maître spirituel, grand maître de la vie intérieure. En même temps, c'est un homme protéiforme, hyperactif, fondateur de couvents, maître spirituel de tout un courant dominicain, un courant féminin qui sont les béguines, qui pendant 10 ans il a visité des couvents de ces moniales, et c'était un enjeu fort parce que les béguines à l'époque n'avaient pas forcément réputation, parce que c'était des mystiques et qui n'avaient pas forcément une réputation très, très assurée pour l'église orthodoxe. C'est quelqu'un qui donc a enseigné, comme je le disais tout à l'heure, à l'université de Paris. C'était une sorte de de star intellectuel de son temps. Il faut voir que Maître Eckhart avait un rayonnement dans toute l'Europe absolument formidable, qui a ensuite été étouffé du fait de problèmes qu'il a eu. Peut-être qu'on y reviendra, parce qu'il a eu un procès du fait de la radicalité de ses thèses. Ce que je veux dire, c'est que sa vie est une vie extrêmement active, engagée dans le monde, dans les débats de son temps. Et ce n'est pas l'ermite isolé du monde qui n'a de cesse de fuir, d'une certaine façon, l'agitation du monde. Alors, pour répondre plus précisément à cette question-là, il y a un sermon assez bouleversant, étonnant, qui s'appelle « Marthe et Marie », qui est un renversement de l'interprétation traditionnelle de cette figure de deux femmes qui étaient des amies du Christ, qui accueillent, c'est dans l'évangile de Luc, qui accueillent le Christ. Dans l'interprétation traditionnelle, Marie est assise au pied du Christ et elle écoute l'enseignement du maître, elle contemple. Et puis il y a sa sœur qui bougonne parce qu'elle s'agite, elle doit préparer la maison et elle dit « Marie, tu pourrais venir m'aider un petit peu ». Donc, la réponse du Christ, il dit, ne l'importune pas, elle a choisi la meilleure part, qui semble être la vie contemplative, d'une certaine façon, la contemplation du Christ. Alors, on pourrait se dire, Eckhart, traité du détachement, penseur de la vie spirituelle, il va faire la lecture classique. Il va dire, il faut privilégier Marie par rapport à Marthe, par rapport à la vie active, la vie qui se préoccupe des pauvres et du monde, puisque c'est cette symbolique-là, Marthe. Eh bien là encore, Eckhart nous sidère et nous déconcerte. C'est-à-dire qu'il dit, eh bien, c'est l'inverse. La figure la plus haute, c'est la figure de Marthe. La figure la plus haute, ce n'est pas la figure d'une sorte de paisible confort intérieur détaché du monde, mais la figure la plus haute, et il emploie une expression tout à fait déconcertante, c'est le souci. Alors, on pourrait lui dire, mais incohérence totale. Le détachement d'un côté... Le souci de l'autre, et il choisit le souci, alors est-ce qu'on n'est plus détaché? Pourquoi est-ce la figure la plus haute et la plus fondamentale? Parce que Marthe est celle qui est capable de vivre auprès des choses, c'est l'expression qu'il emploie, tout en restant auprès de Dieu. Et c'est ça la fine pointe du détachement, c'est-à-dire cette liberté intérieure absolue qui fait que je peux continuer à vivre dans le monde, à vivre auprès des choses, tout en ne me... n'étant pas totalement et radicalement séparé de Dieu. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'une certaine façon, me vider du monde et me remplir de Dieu, ça semble aller dans une direction opposée. Mais d'une certaine façon, c'est l'étape suivante. Une fois que je suis empli de Dieu, je suis totalement libre. Et je suis même libre, d'une certaine façon, de retourner au monde. Il y a toujours cette dialectique. C'est-à-dire qu'une fois que je vis parfaitement en Dieu, en étant identifié à lui, eh bien, d'une certaine façon, c'est là la sérénité, c'est là la Gelassenheit, c'est-à-dire je peux laisser être les choses, agir dans le monde selon une liberté radicale.
Sauf que si l'homme s'identifie complètement à Dieu, alors il n'a plus aucun intérêt de vivre auprès des choses. Quel intérêt pour l'homme de se satisfaire, s'accommoder du monde matériel alors qu'il est lui-même parvenu à devenir Dieu?
C'est peut-être là où on revient à la différence entre le christianisme et le néoplatonisme. Il ne s'agit pas simplement de... opérer son salut par une sorte de hédonisme spirituel, c'est-à-dire de chercher à trouver refuge en Dieu et d'une certaine façon, tout va bien. La logique même du christianisme est aussi une logique de la charité. C'est là où on retrouve l'idée de l'incarnation. Dieu n'est pas celui qui, d'une certaine façon, il était très bien dans son absolue transcendance, mais il a choisi non seulement de créer le monde, mais de venir dans le monde. Et donc, la logique même de la charité chrétienne est que tout en vivant en Dieu, le mouvement même de Dieu, si vous voulez, n'est pas simplement ce mouvement de retrait, mais il est aussi, et c'est là que les deux dimensions sont difficiles à tenir, il est aussi ce mouvement qui se donne pour le monde, ce mouvement de salut du monde. Et donc, de même que Dieu, dans l'incarnation, se donne au monde, dans la création, se crée un monde, un partenaire avec qui converser, et dans l'incarnation, vient sauver le monde, eh bien le chrétien n'est pas simplement comme une sorte d'ascète bouddhique, celui qui se retire simplement du monde, il est aussi celui qui, par le principe de charité, continue à œuvrer pour ses frères.
Mais, et pourtant, si l'homme devient Dieu encore une fois, Il n'a plus besoin de Dieu. Le paradoxe vient de là, c'est que finalement, l'homme, selon Maître Eckhart, a besoin sans doute de la religion et de prêcher cette attention au monde, cette ouverture aux autres, cet intérêt pour le monde matériel. Mais une fois que lui-même est parvenu au statut de Dieu, l'homme n'a plus besoin de Dieu. On est là. Alors, c'est même plus du mysticisme, c'est presque un immanentisme absolu.
Alors, c'est tout à fait, effectivement, brûlant, cette question du besoin de Dieu, pour Maître Eckhart. Il faut accéder à un rapport, aussi bien, finalement, toujours dans ces deux dimensions, au monde et à Dieu, qui ne soit plus un rapport, justement, fondé sur le besoin. Il n'y a pas... parce que qu'est-ce que ça voudrait dire, avoir besoin de Dieu ? Ce serait faire de Dieu ma chose, mon instrument, d'une certaine façon. Il faut, pour Maître Eckhart, accéder à ce point de ma vie intérieure, d'une certaine façon, qui est pure gratuité. Dans cette double dimension, rapport au monde, je ne construis pas mon salut, d'une certaine façon, dans le rapport au monde, et être en Dieu, ou être Dieu, d'une certaine façon, ce n'est plus avoir besoin de Dieu. Pourquoi, fondamentalement, si on prend sa logique intellectuelle, spéculative? Qu'est-ce que c'est que le besoin de Dieu? C'est encore l'altérité entre un moi qui est en défaut, qui est en manque, et quelque chose d'extérieur qui viendrait combler ce manque. Mais il faut remonter en deçà de cette altérité, de ce besoin, et c'est là la gratuité. C'est Dieu qui se donne gratuitement à moi, et moi qui le reçois totalement gratuitement. Et donc, qui non seulement le reçoit, mais qui finit par m'identifier parfaitement à lui.
Et ça, c'est ce que Maître Eckhart nomme la pauvreté. C'est par une volonté sans objet, une volonté qui non pas qui se veut elle-même, mais qui ne veut tellement rien qu'elle en est pauvre, que l'homme peut réduire la distance qui le sépare de Dieu.
Vouloir Dieu, c'est encore trop peu, d'une certaine façon. La volonté de Dieu, pourquoi ? C'est exactement la même logique. La volonté de Dieu institue cet écart entre celui qui veut et celui qui est voulu. Alors, c'est un cheminement pour Eckhart, d'une certaine façon. C'est déjà pas mal, d'une certaine façon, dans sa propre logique de vouloir Dieu. C'est la fameuse parole du Christ, le soir de la Passion, « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est-à-dire, il veut la volonté divine. Et donc, le Christ lui-même veut cette volonté. Mais ça, c'est d'une certaine façon, c'est la figure du Christ incarné, de l'homme. Mais l'homme lui-même, dans la logique Descartes, doit être dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme doit être dépassé ? C'est ce rapport du créateur à la créature. Ce rapport fondamental de la créature qui veut et de Dieu qui est voulu, ce rapport-là, qui instaure une relation et encore une altérité, doit être dépassé pour habiter ce pur désert intérieur où je ne suis plus simplement l'autre et le partenaire de Dieu, mais dans le fond de mon âme, dans le fond de l'âme, il n'y a plus aucune différence entre, c'est ce dont on a parlé en commençant, entre, en quelque sorte, le fond de Dieu et le fond de l'âme.
Cette importance donnée au fond de l'âme est très surprenante, puisqu'on peut y entendre à la fois une influence, ou sans doute des lectures qu'aurait fait Maître Eckhart de Saint-Augustin avec cette notion de l'intime. Et en même temps, c'est une façon d'intérioriser l'origine divine qui est révolutionnaire, enfin vraiment à proprement parler. J'imagine que c'est pas pour rien que Maître Eckhart a eu des ennuis vis-à-vis de l'Église, puisque c'est quand même affirmé que l'origine de Dieu est dans l'âme humaine. Mais c'est aussi, alors là, de manière plus conceptuelle, disons, donner vraiment le jour et creuser, explorer cette notion de l'intime de manière très, très moderne, en tout cas pour nous, lecteurs du XXIe siècle.
Alors effectivement, il y a ces deux dimensions. Ce rapport, d'une certaine façon, à l'intime, qui remonte, comme vous le dites, à Saint-Augustin, que Maître Eckhart avait médité, qui est cette idée de Saint-Augustin, Dieu est plus intérieur à moi-même que moi-même, et qui opère, et c'est là, dans cette direction-là que va creuser Maître Eckhart, qui opère la conjonction, là encore paradoxe, figure centrale chez Eckhart, la conjonction de l'intériorité et de la transcendance. C'est-à-dire que plus l'homme remonte en lui-même, au plus intime, au plus secret de ce qu'il est, plus, d'une certaine façon, il trouve la hauteur de Dieu. Donc, il faut, et ça c'est vrai dans beaucoup de thématiques traitées par Eckhart, il faut se départir d'une manière trop figée, rationnelle de pensée, qui opposerait d'un côté intériorité, transcendance, intériorité, extériorité, humilité, peut-être ce qui est une thématique aussi décisive, et hauteur de Dieu. Ces deux concepts, ou c'est, comment dire, cette bipolarité, se rejoint avec cette idée que là où je suis au plus profond de moi-même, où j'explore le plus profond de moi-même, c'est là, d'une certaine façon, que je trouve la hauteur et la transcendance la plus absolue de Dieu.
Le plus élevé se situe au plus profond de moi-même.
Voilà, le plus élevé se situe au plus profond. Alors, vous parliez aussi d'une, d'une idée très moderne. Pourquoi on peut dire que c'est même moderne au sens d'une philosophie très contemporaine? Il y a chez Eckhart cette idée, si on parle de subjectivité, qui n'est pas son vocabulaire, d'un point de la conscience, et là encore, ce n'est pas son vocabulaire, mais je traduis d'une certaine façon, qui est asubjectif. C'est-à-dire qu'il y a un point de l'intériorité, de moi-même, où, d'une certaine façon, je ne suis plus le maître en ma maison. Alors, il ne s'agit pas d'aller vers la psychanalyse, parce que c'est une expression aussi de Freud, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a, si on reprend les catégories ancienne du transcendantal, d'un sujet qui est en quelque sorte l'origine et le maître de ces représentations du monde, il y a en deçà de ces facultés par lesquelles je constitue les choses, je constitue le monde, il y a aussi un point source où d'une certaine façon je suis en retrait par rapport à un acte constitutif qui me permet d'organiser, de constituer le monde. Il y a cette thématique de la subjectivité avec un tiret. C'est-à-dire quelque chose de asubjectif, quelque chose qui me dépasse moi-même à l'intérieur de moi.
Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette pensée de l'intime comme n'étant pas le fondement d'une pensée de l'individu, disons. C'est ça qui est difficile à penser, c'est qu'à la fois il y a cette importance accordée à l'intime, à l'intériorité, et en même temps ce n'est pas la source, c'est pas là où la pensée de l'individu, même de la personnalité, prend sa source, parce que ce sera bien plus tard, il est difficile de tenir les deux ensemble. Alors, de comprendre que l'un n'implique pas l'autre, quoi.
Alors effectivement, il faut distinguer ici très fermement, comme vous le dites, individualité et intériorité. Qu'est-ce que c'est que l'individualité? C'est ce qui me rend singulier, ce qui me rend unique, d'une certaine façon. Et ça, c'est une pensée moderne, que le christianisme a aussi repris, c'est-à-dire l'unicité de la personne, ce qui fait son prix. Eckhart ne va pas dans cette direction. Il travaille sur l'idée donc, d'une intériorité, au contraire, qui me dépossède de mon identité historique, singulière, individuée, et qui fait, et c'est pourquoi, parce que, selon lui, retrouver l'origine divine, il dit qu'il faut se décréer, pour aller dans le sens de ce que vous dites, expression qui, pour le coup, n'est peut-être pas très chrétienne, c'est-à-dire ce processus de décréation qu'on peut aussi décrire comme un processus de désindividualisation, c'est-à-dire trouver le point source d'où jaillit peut-être ma vie personnelle, d'où jaillit ma vie, pour le coup, individuelle, mais qui est en deçà de cette vie individuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est l'origine même en Dieu. D'une certaine façon, vous avez cité le traité sur la pauvreté tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté? C'est justement, être pauvre, c'est la même chose qu'être noble, là encore paradoxe. Noblesse et pauvreté s'identifient. C'est, là encore, se dépouiller tellement radicalement de soi, de son individualité, que j'habite le cœur, l'intime, le fond de l'âme, où Dieu n'est plus autre que moi, d'une certaine façon. Mais pour que Dieu ne soit plus autre que moi, il faut que déjà je ne sois plus moi-même. Se détacher, c'est se détacher du monde, mais c'est aussi fondamentalement se détacher de soi. Et encore une autre dimension du détachement qui est, alors là pour le coup, révolutionnaire, il s'agit aussi de se détacher de Dieu. De l'image que je peux me faire de Dieu. Là, c'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est...
Non, mais nous revoilà à ce qu'on disait tout à l'heure. Quel besoin Dieu n'a plus, l'homme n'a plus besoin de Dieu, il n'a plus de raison d'exister, si on suit Maître Eckhart jusqu'au bout.
Alors absolument, on pourrait parler, mais il faut y aller doucement parce que c'est des notions difficiles, mais d'une forme d'athéisme chez Eckhart, mais qui n'est pas la même chose que l'athéisme contemporain, qui est simplement négation pure et simple de l'idée ou de l'existence de Dieu. Mais malgré tout, il y a cette prière qui est déconcertante. Je prie Dieu de me libérer de Dieu, dans le traité sur la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prie Dieu de me libérer de Dieu. On peut le comprendre à deux niveaux. D'abord, c'est une sorte de d'anti-idolâtrie conceptuelle. C'est aussi peut-être une sorte d'anti-construction métaphysique du divin. Une fois qu'on a fait tout le travail de théologien que fait Eckhart, hein, il ne faut pas le prendre non plus pour quelqu'un qui simplement raconterait sa vie spirituelle. C'est un maître tout à fait spéculatif, absolument solide. Hein. Mais en même temps, toutes les représentations conceptuelles que je peux me faire de Dieu, à un moment donné, je dois chercher à m'en libérer. Ça, c'est la première dimension de cette prière, c'est se libérer de tout ce qui pourrait faire récran avec l'expérience même de Dieu. Il y a une expression là de Michel Henry, qui est un grand lecteur de Maître Eckhart, qui dit « l'expérience de Dieu, ou l'expérience de l'absolu, c'est l'absolu lui-même ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'expérience de Dieu et de l'autre côté Dieu, mais il faut se détacher de l'expérience pour, ou même de la représentation, pour aller habiter donc le cœur du divin. Alors peut-être juste une deuxième interprétation de « Je prie Dieu de me libérer de Dieu », plus technique et plus difficile, c'est cette fameuse articulation entre le concept de Dieu et la déité. Articulation très difficile, mais je vais essayer juste d'en dire un tout petit mot. Là encore, Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois le créateur et c'est à la fois Dieu comme relation trinitaire. Donc, deux dimensions fondamentales dans la théologie chrétienne, Dieu qui crée et Dieu qui est relation du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais se libérer de Dieu, c'est aussi se libérer de cette dimension du divin, créatrice et trinitaire, pour aller se fondre, s'abîmer dans l'origine même de Dieu, qui est la déité, qui est la racine encore plus profonde. De même que je me détache de moi-même, je me détache de mes puissances, ce qu'il appelle les puissances, la pensée, la volonté, l'entendement, hein, toutes ces puissances dont je me détache, Dieu lui-même se détache de lui-même, se détache de son aspect trinitaire, et il habite ce désert intérieur, cette origine intérieure, hein, qui est décrit comme Eckhart le peut, par ce concept de déité.
Et justement, il est décrit, ce qui nous permet d'aborder un dernier point, qui est celui de l'écriture, puisque Maître Eckhart va écrire pour dire cela. Il y a ce travail sur l'écriture qui n'est pas sans rapport d'ailleurs au travail de l'écriture de Dante dont nous parlions hier. Cette ambivalence, ce jeu avec les limites du langage pour arriver à dire quelque chose qui excède le langage. Dante choisissait la poésie, Maître Eckhart choisit une forme de litanie ou de liturgie, même une répétition incessante et obsédante pour essayer de dire finalement qu'il faut se défaire de l'homme et du discours. On retrouve là le paradoxe ultime, sans doute, des textes de Maître Eckhart.
Alors effectivement, là encore, rappelons qu'il y a deux grands types d'écrits qui nous sont parvenus, les traités et les sermons. Hein, et dans les sermons, on voit cette fameuse liturgie de la parole. Le sermon, qu'est-ce qu'il opère ? Il opère le lien entre la parole écrite et le verbe de Dieu. C'est-à-dire, il est lien entre le verbe proféré par le prédicateur qui doit, d'une certaine façon, cette parole dite, elle doit faire le lien avec la parole même vivante du Christ. Et donc, la prédication, c'est s'adresser à un auditeur pour que, en lui-même, il fasse ce cheminement de la parole écrite à la parole intérieure divine, qui est le Verbe de Dieu. God had a name. What would it be? And would you call it to his face? If you were faced with if you had just one question, and yeah, God is great, yeah, God is good, yeah. What if God was one of us? Just a slob.
Merci beaucoup Laurent Lavaux d'être venu nous parler de Maître Eckhart aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à plusieurs choses, à la lecture des cartes, les traités et sermons, on les trouve notamment en Garnier Flammarion, aussi Maître Eckhart ou La joie errante, les sermons allemands. qu'on trouve cette fois aux éditions de la petite bibliothèque Payot, Rivage. Je renvoie à l'ouvrage de Éric Mangin, Maître Eckhart, La profondeur de l'intime au seuil, pour approfondir justement cette pensée de l'intime. Et puis à votre ouvrage, Laurent Lavaux, qui est consacré à Plotin. Alors, rappelez-moi le titre.
D'une métaphysique à l'autre, figure de l'altérité dans la pensée de Plotin.
Et on trouve ça chez Vrin. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. L'intérêt que porte la philosophie à la beauté des œuvres d'art a pris des formes diverses depuis le XVIIIe siècle. Sous le nom d'esthétique se rangent bien des théories. Charlotte Morel choisit de relancer le débat en interrogeant le lien entre esthétique et logique, le titre de l'ouvrage qu'elle a dirigé aux éditions du Septentrion. Charlotte Morel, bonjour.
Bonjour François Nudelman.
On devrait peut-être commencer par rappeler l'origine de cette notion disciplinaire, l'esthétique.
Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est un mot dont le sens a évolué depuis sa fondation, on peut dire. Hein, c'est un mot qui est quasiment inventé au milieu du XVIIIe siècle et qui n'a pas au départ le sens qu'on lui donne plus généralement aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui serait une philosophie de l'art. Quand on va à la faculté pour suivre des cours d'esthétique, c'est de la philosophie de l'art qu'il s'agit. À l'époque, c'est bien plus large, donc, puisque déjà le mot vient du grec aesthesis, qui signifie tout ce qui est sensible, tout ce qui est l'acte de sentir. Donc c'est un auteur allemand, Baumgarten, qui décide de voir s'il peut fonder une discipline philosophique qui serait finalement une étude des choses sensibles sur le modèle de la logique, puisque la logique concerne les choses rationnelles jusqu'ici, et il fonde l'esthétique comme un élargissement de la logique à la sphère des choses qui seraient sensibles.
Alors l'esthétique a connu bien des variations, on étudie l'esthétique de Kant, l'esthétique d'Hegel, la psychologie des formes, la phénoménologie de l'art, enfin bref, il y a des tas de branches. Pourquoi y introduire de la logique ?
Effectivement, ça peut parfois, peut-être d'autant plus sembler quelque chose qui ne va pas de soi si on a en tête la philosophie de l'art au premier chef, mais ce qu'on vient de rappeler avec la fondation de cette discipline le rend peut-être plus clair. Et ce qui m'intéressait, c'est de m'apercevoir que même si aujourd'hui, effectivement, quand on parle esthétique, on va s'intéresser en premier lieu à l'art, même dans ce domaine-là, il est toujours question, quand on s'interroge sur l'art et son fonctionnement, du rapport de ce qui est senti, sensible, auquel on peut accorder une valeur, justement, au sens où c'est esthétique. On peut essayer de chercher un lien entre le fonctionnement de la chose esthétique et ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui davantage la cognition. Donc oui, le terme de logique, oui, j'essaie justement dans l'ouvrage et dans sa structure de montrer que, bien sûr, il a différentes dimensions lui aussi. Mais finalement, le questionnement d'ensemble, c'est de s'apercevoir que ce croisement entre la chose esthétique au sens le plus large, donc comme je l'ai rappelé, et la recherche de structures abstraites qui permettraient d'en éclairer le fonctionnement, ben, c'est bien sûr aussi actuel aujourd'hui que ça n'a été à l'époque de la fondation de la discipline.
Alors ça veut dire que l'esthétique et la logique sont des modes de connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, l'esthétique est une science de la sensibilité, et vous affirmez à partir d'une approche logique qu'il existe une connaissance sensible.
Voilà, alors ça correspondrait effectivement à la première partie de l'ouvrage, puisque je l'ai structuré cet ouvrage, oui, en distinguant différentes dimensions du mot logique également, oui, pour clarifier le propos.
Alors qu'est-ce qu'une connaissance sensible ?
Voilà, alors la première partie de la logique, ça serait celle qui renverrait, alors qu'on a ensuite perdu peut-être ce sens du mot dans l'idée de logique, mais ça renvoie effectivement à la connaissance possible du réel selon finalement l'étude du fonctionnement de l'esprit. Et Baumgarten pense qu'il y a de quoi connaître déjà dans ce qui est sensible et non seulement rationnel. Alors il se base finalement pour cela sur une logique qui vient de Leibniz, qui finalement se base sur les concepts de clarté, de distinction. Et finalement, même si une connaissance n'est pas distincte, comme elle le serait si finalement elle était entièrement accessible à la raison, avec des distinctions conceptuelles absolument distinctes, il pense qu'il suffit d'avoir ce qu'il appelle une clarté sensible, ce qui fait que même les idées peuvent avoir une clarté sensible.
Alors clarté, est-ce que c'est une rationalité ?
Eh bien, alors, on peut dire oui et non, ce qui est sur une façon assez ambiguë de parler, je pense en disant cela à ce qu'il appelle l'analogon rationis, donc il écrit en latin, donc la connaissance du sensible, ce qu'on pourrait connaître par une connaissance claire et qui soit aussi une belle connaissance.
Mais analogique.
Voilà, ça serait, en fait, ça fonctionnerait comme une analogie à la raison. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se pencher. Qu'est-ce qu'il y aurait d'analogue dans ce qui est senti à la raison ? Donc,
d'accord.
C'est pourquoi.
Mais est-ce que c'est pas un problème de justifier, en quelque sorte, le sensible ou la rationalité du sensible par une analogie à la raison, comme s'il n'y avait pas de rationalité intrinsèque, en quelque sorte, au sensible ?
Alors, oui, on pourrait effectivement penser que ça n'est pas une façon de rendre le domaine du sensible autonome, mais
oui,
alors que c'est
oui.
au contraire ce qui est recherché. Hein,
oui,
donc,
oui, c'est ça.
On peut chercher dans ce qui est senti la façon dont on peut en dégager une structure, sachant qu'en cherchant quels sont les éléments, s'il y a une structure, s'il y a des modes de relation, ce qui est le second, finalement, sens global de la logique, indépendamment de la connaissance, justement. Hein, donc, c'est pour ça que j'essaye, bien sûr, de poser le sujet sur les deux registres. Il n'y a pas que la question de la connaissance quand on parle de logique. Mais l'ambition de Baumgarten, c'est, à l'époque en tout cas, c'est vraiment de à la fois de dissocier et d'articuler, ce qui est toujours l'ambiguïté que vous pointiez, hein, le domaine sensible et rationnel. Mais l'idée d'analogie, c'est vrai, reste ambiguë, puisque on va conférer une certaine valeur logique à la sensibilité par le biais d'une analogie, ce qui montre bien que toujours la rationalité reste une sorte de paradigme.
Alors, prenons un exemple de sensibilité. Est-ce que c'est la sensibilité du spectateur ou de l'auditeur d'une œuvre ou bien s'agit-il de l'œuvre elle-même qui contiendrait déjà un mode de représentation ou un mode de fictionnalisation ou d'imagination ou de sensibilité qui donnerait accès à une intelligibilité du réel ?
Alors justement, c'est une question qui peut être très diverse selon la façon dont on va l'aborder. Et c'est moi ce qui m'a intéressé dans le fait que dans cet ouvrage, je réunis différents contributeurs donc, qui ont chacun le point de vue. Et donc, bien sûr, je suis venue vers ces contributeurs avec un projet, un argumentaire, etc. Et puis, en proposant différentes pistes, comme vous avez pu éventuellement tout de suite en retrouver certaines. Et chacun est arrivé avec des propos qui pouvaient recouper effectivement diverses dimensions. Alors chez Baumgarten, il se centre surtout sur l'aspect poétique, rhétorique. Donc c'est la sensibilité finalement du discours qui va être mise en avant alors que son esthétique se veut être générale. Après, ça peut être effectivement la sensibilité de l'œuvre d'art, de la musique.
Oui, alors justement, est-ce que ce n'est pas un problème là ? Est-ce que vraiment c'est un domaine sur lequel peut s'appliquer la logique ?
Moi, j'aurais au contraire eu tendance à penser que c'est peut-être l'un des arts sur lequel on pourrait se dire que c'est le plus simple a priori, puisque la musique peut apparaître comme un système de signes finalement organisé avec ses règles propres. Après,
oui, c'est mathématique comme le pensait Platon.
Tout à fait. Donc à ce titre-là, ça n'offre pas de difficulté.
Et
puis on conçoit bien qu'effectivement il y a l'aspect sensitif, sensible de la musique, et puis cet aspect intellectuel. Effectivement, ça depuis c'est tout à fait consubstantiel à la musique.
Y a-t-il des auteurs, des philosophes qui correspondent véritablement à cette approche liée de l'esthétique et de la logique ?
Ce qui était intéressant, c'était de s'apercevoir finalement, mais pas avant de le montrer, c'était de s'apercevoir qu'il y a dans l'histoire de cette notion, donc on part du milieu du XVIIIe siècle, puisque c'est Baumgarten qui fonde l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des ruptures. Kant est une sorte de rupture, mais en même temps qui est plutôt un point d'articulation que de rupture, et puis on peut aller jusqu'à aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est que mes contributeurs étaient capables de montrer que, même si ça n'est pas apparent au départ, il y a une réflexion qui peut se faire, qui peut faire croiser le problème qu'on peut prendre chez Baumgarten avec des choses aussi contemporaines que les sciences cognitives.
Oui.
Et puis,
ou la pensée de Nelson Goodman, par exemple.
Voilà, tout à fait. Il y a deux contributions dans l'ouvrage qui parlent de Goodman, même si c'est aussi notre orientation.
Bien sûr. Merci, Charlotte Morel. Je rappelle le titre de ce livre collectif que vous dirigez, Esthétique et logique, paru aux éditions du Septentrion. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup, François. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine médiévale. Après le conte du Graal, Dante et Maître Eckhart, il en manquait un, et pas des moindres, j'ai nommé Thomas d'Aquin, et c'est Rudy Imbard qui viendra nous en parler. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.